RCF. Fabien Toulmé, en une dizaine d'années, vous êtes devenu un dessinateur scénariste connu et reconnu dans le monde de la bande dessinée. Votre premier album, Ce n'est pas toi que j'attendais, a bouleversé des milliers de lecteurs sur la manière dont vous avez vécu l'accueil de votre fille trisomique dans votre famille. Dans un tout autre registre, vous avez obtenu le prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage pour l'Odyssée d'Hakim, qui nous racontait le parcours d'un réfugié depuis sa Syrie natale jusqu'en France. Alors autobiographie, fiction, reportage, vous avez travaillé sur tous les registres que propose la bande dessinée. Pour commencer, Fabien Toulmé, si je vous cite une phrase extraite de l'une de vos BD, Les Devis de Baudouin, il faut choisir entre rêver sa vie ou vivre ses rêves. Qu'est-ce que cela évoque pour vous dans votre propre vie ?
Ça évoque un parcours fait des deux segments de cette citation, où il y a eu un moment où j'étais clairement dans un métier qui n'était pas fait pour moi, mais ça je ne savais pas avant de m'y lancer. Hein. Des fois on découvre un peu les choses quand on est dans la situation, et à ce moment-là, j'étais ingénieur, et le temps passait, et je me rendais compte clairement que j'étais en train de passer à côté de quelque chose qui m'était cher, c'est-à-dire faire de la bande dessinée. Et en fait, la transition dans cette citation, c'est la transition dans ma vie, quand je me suis dit, je suis jeune, mais je suis en train peut-être de faire quelque chose qui ne me correspond pas. Allons vers ce qui me plaît, allons vers ce qui m'anime depuis que je suis enfant. Et je suis devenu auteur de bande dessinée. Dans ce cas-là, j'ai fait
Vous avez réalisé un rêve. On peut dire que vous avez réalisé un rêve. C'est quoi, un rêve d'enfance d'être dessinateur de bande dessinée?
Ouais, j'ai du mal à dire. La vocation, je ne sais pas trop ce que c'est. Par contre, c'est vrai que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Et pour le coup, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui disent que ce qui les a animés, c'est le dessin. Moi, c'était vraiment la coexistence des deux, c'est-à-dire de l'histoire et du dessin. J'aimais dessiner, mais en fait, avant d'aimer dessiner, j'aimais raconter des histoires en dessinant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, on avait des piles de papier imprimante avec les petits trous là sur les côtés, et ça faisait des espèces d'accordéons quand on les dépliait.
Ouais.
Et là, moi, je commençais à écrire, à dessiner des histoires comme ça, et puis je les prolongeais tout au long de cet accordéon de papier imprimante, et parce que j'étais vraiment dans l'idée de me raconter une histoire avec du dessin.
C'est ce que vous aimez plus que le dessin, parce que vous êtes tout, vous êtes à la fois le scénariste et le dessinateur dans vos bandes dessinées. Vous êtes d'abord un scénariste et puis un dessinateur.
J'ai du mal à le dire, je pense que je suis vraiment les deux, et en fait c'est justement le fait de faire les deux qui me plaît, qui m'anime, qui me donne envie d'avancer dans l'histoire. Je pense que de faire une histoire uniquement au dessin avec un scénariste me frustrerait un peu. Je ferais plus l'inverse, c'est-à-dire je raconterais plus des histoires, c'est ce que je commence à faire d'ailleurs. Mais vraiment, moi, ce qui me plaît, c'est la mise en scène. C'est-à-dire la mise en scène en image d'un texte. Imaginez la façon dont vont évoluer les personnages et les représenter. Je rattache beaucoup ça au jeu que je faisais enfant avec les Playmobil, en fait. J'avais mes Playmobil ou mes Lego, puis j'inventais des histoires avec eux, puis je les mettais en scène. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui m'animait depuis enfant. Et puis, le temps passant, d'autres contingences sont arrivées. Le besoin d'avoir un métier peut-être rassurant, avec des perspectives plus concrètes, plus sages, et puis voilà.
Alors c'est intéressant, Fabien Toulmé, parce que bon, vous êtes né en 1980 à Orléans, puis vous avez fait des études d'ingénieur en génie civil et en urbanisme. Vous avez fait ce choix-là, quoi, pour faire plaisir à papa-maman, ou pour vous rassurer vous-même, ou parce que vous aviez un désir de devenir ingénieur malgré tout, et puis que dessinateur de bande dessinée dans les années 2000, c'était pas vraiment un métier.
Je pense que c'est un peu tout ça, mais c'est surtout moi avec moi-même en fait qui ai dû me convaincre que était-ce bien raisonnable de tenter l'aventure dans un métier incertain. Puis moi, j'avais pas vraiment d'exemple concret autour de moi de gens qui faisaient des métiers artistiques. Et je pense que beaucoup, ce qui va influencer nos choix quand on n'est pas très mûr encore à 17-18 ans, on a beau être majeur et quasiment adulte, on est encore très peut-être immature dans la façon dont on se perçoit, dans la façon dont on imagine sa vie. Et moi, comme j'avais pas de guide ou d'influence qui me montrerait que ce genre de parcours était possible, ben je me suis dit, un parcours logique et normal, c'est on est fort en sciences, on devient ou ingénieur ou médecin. Et après, c'est plus une suite de non-choix. En fait, plutôt que des choix, c'est des non-choix. C'est-à-dire, j'ai fait le non-choix de faire auteur de bande dessinée. Après, j'ai fait le non-choix d'être médecin. Après, parmi toutes les spécialités dans l'ingénierie qui se présentaient, j'ai fait le non-choix de l'informatique, télécommunication, ce genre de choses, pour finir par génie civil et urbanisme. Mais parce que, en fait, c'était surtout les perspectives de voyage qui m'intéressaient. Et je savais que c'était un domaine, la construction, où on était plus amené à voyager. Donc voilà, plutôt qu'un choix, c'est vraiment une suite de non-choix.
De non-choix qui vous ont conduit à votre premier choix finalement, qui est dessinateur de bande dessinée à temps plein. Aujourd'hui, vous ne faites que ça, vous avez arrêté l'ingénierie. Alors, vous venez de parler, Fabien Toulmé, du voyage. Dans votre dernière bande dessinée, Les Reflets du Monde en lutte, dont nous allons parler, vous avez voyagé dans 3 pays, le Liban, le Brésil et le Bénin, des pays qui vous sont chers. Mais avant d'être dessinateur de bande dessinée, quand vous étiez ingénieur, vous avez déjà beaucoup voyagé. Ce goût du voyage, il vous vient d'où ?
Je ne sais pas. J'essaie d'y réfléchir. Je pense que pour moi, le voyage, il est lié au fait de m'extraire de l'endroit où j'ai grandi, qui m'ennuyait profondément. J'ai grandi en banlieue un peu inanimée d'Orléans, et à l'époque, il n'y avait pas trop de connexion entre cette partie de la banlieue et le centre-ville. Et donc moi, j'ai vraiment une enfance et une jeunesse d'ennui. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai fait beaucoup de bandes dessinées, d'ailleurs, quand j'étais enfant, pour combler le vide, tout ça.
Il y a beaucoup d'écrivains qui sont devenus écrivains parce qu'ils s'ennuyaient dans leur enfance.
Ah ouais, moi, j'ai le souvenir vraiment que en fait, j'avais très peu d'occupations. En plus, c'était encore une époque, alors ça fait déjà un peu vieux de dire ça, mais...
à 40 ans.
Où il y avait pas trop il y avait même pas du tout d'informatique. Il y avait pas... on a eu la télé relativement tard. Et donc, pour moi, à la fois la lecture de bandes dessinées, le fait de fabriquer des bandes dessinées, c'était vraiment une occupation, en fait, c'est mon occupation. Et donc, je pense que ce goût du voyage, en fait, il commence de là. L'envie de s'extraire de ce milieu-là et de découvrir des choses qui étaient vraiment fascinantes, quoi. Le fait, mon premier voyage, c'était finalement d'aller étudier à Lyon. C'était pas grand-chose, mais pour moi qui avais grandi en banlieue d'Orléans, une banlieue, comme je disais, un peu ennuyeuse, c'était déjà un peu l'aventure. Et puis après, en fait, ça... Petit à petit, c'est comme si on étendait l'espace des choses qu'on connaît et la soif de nouvelles choses à découvrir. Donc voilà, ça a pris de l'ampleur. Après, c'était les pays européens et après, c'était les pays du monde. Et vraiment, ça a commencé pendant mon école d'ingénieur où j'avais un ami libanais. Et on est parti avec d'autres amis de cette école d'ingénieur faire un tour du Moyen-Orient, donc à la fois au Liban, en Syrie et en Jordanie. Et c'était vraiment la première fois que j'étais en contact avec tout à fait une autre culture, d'autres paysages.
Des voyages qui vont vous aider pour ensuite l'Odyssée d'Hakim, qui raconte l'histoire de ce migrant syrien. Donc vous aviez des images de son pays.
J'ai l'impression que tout communique, en fait, tout s'auto-alimente sans que je l'ai vraiment prévu, mais c'est vrai que de ces voyages, on peut faire un lien avec, là vous parliez du Liban en lutte, effectivement, tout ça naît aussi peut-être à ce moment-là, cet intérêt pour le Liban. Il y a la Syrie, effectivement, qu'on retrouve dans l'Odyssée d'Hakim. Peut-être que tout ça, inconsciemment, il y a eu des connexions qui se sont faites et qui ont fait que j'ai raconté ces histoires en lien avec ces pays, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois la totalité de ces voyages comme une espèce d'ensemble, c'est-à-dire le fait de découvrir d'autres gens, l'intérêt pour les autres gens, l'intérêt pour les autres cultures, l'intérêt pour les autres langues. Voilà, je pense que tout est parti un peu de là.
Visage, Thierry Lyonnais.
Fabien Toulmé, en quoi cette première vie d'ingénieur que vous avez eue accompagne et aide aujourd'hui le reporter dessinateur de bande dessinée que vous êtes devenu ?
Alors déjà, je pense que ça me fait voir à chaque fois que j'éprouve peut-être un peu de lassitude ou d'ennui, parce que c'est inhérent à la condition humaine. En fait, même quand on fait des choses qu'on adore, on peut éprouver parfois de la lassitude ou de l'ennui. Et bien souvent, je fais référence à mon métier d'avant et je me dis non. Quand même, là, je suis en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Le fait de pouvoir faire sa passion d'enfance, le fait de pouvoir en vivre, c'est quand même en soi assez exceptionnel. Donc ça me permet déjà d'avoir une bonne référence et d'y revenir fréquemment pour redonner de la valeur à mon métier actuel. Surtout, je pense que ça m'a donné aussi un cadre. Bon, là, ça fait peut-être un peu caricatural de dire ça, mais le fait d'avoir un métier très carré, très construit, où il y a beaucoup d'esprit de synthèse à avoir, je me rends compte que je le mets en œuvre assez fréquemment dans dans mes bandes dessinées. Quand il s'agit, par exemple, de synthétiser une multitude d'informations, bah, là, je me rends compte, effectivement, que le fait d'avoir étudié ça, le fait d'avoir travaillé ça, aujourd'hui, je m'en resserre. Et puis, ce côté découverte et ce côté voyage que j'ai beaucoup pratiqué dans mon métier d'avant, puisque j'ai exercé ma profession dans notamment les pays qu'on a évoqués.
En tant qu'ingénieur, vous avez voyagé au Brésil, au Bénin, en Guyane, en Guadeloupe, plus ces voyages au Proche-Orient. Vous avez beaucoup voyagé en tant qu'ingénieur. Et certains vont se dire, mais c'était une vie déjà passionnante. Et il était insatisfait.
Mais parce que
Fabien Toulmé est un grand insatisfait.
C'est le propre de l'homme d'être insatisfait, je pense. Non, est-ce que j'étais insatisfait ? J'étais pas insatisfait des voyages, j'adorais ça. Je pense que, n'aimant pas ma profession, j'essayais justement, dans une activité qui me plaisait pas, de m'aménager des espaces qui me convenaient. Mmh. Et donc, si on revient au choix initial de faire génie civil et urbanisme, c'était en me disant, peut-être je ferai un truc qui me passionnera pas, mais au moins j'en profiterai pour voir du pays, rencontrer des gens.
Et ça suffit, ça ou pas, d'associer le voyage et votre métier d'ingénieur ?
Et non, parce que au bout d'un moment, le fait de pas être satisfait de son métier et de s'ennuyer, ça fait se poser des questions. Et puis on passe quand même dans sa vie une grande partie de son temps à travailler. Donc même si on est à 200 mètres de la mer sous les cocotiers, on est quand même dans un bureau, éventuellement avec une chemise et une cravate, et il faut exercer une activité très concrète, et qu'elle se fasse à Paris-La-Défense ou à Fortaleza, quand on est devant son ordinateur, c'est pas grande différence.
Et c'est marrant, vous parlez pas de vocation en parlant de dessinateur de bande dessinée, vous croyez pas que vous aviez finalement la vocation d'être d'abord et avant tout un dessinateur de bande dessinée, et que vous étiez frustré et malheureux en tant qu'ingénieur parce que cette vocation, elle était là, profondément inscrite en vous ?
Je sais pas vraiment ce qu'est la vocation, en fait, je sais pas si on a une vocation. Je crois que selon certaines cultures, on parle de légende personnelle, une espèce de truc à accomplir qui est propre à chacun au moment où il naît. Je ne sais pas si ça existe. Je pense juste que j'avais une passion énorme pour la bande dessinée et qu'elle s'est forgée au moment de l'enfance. Et à mon avis, c'est là que se passent les choses les plus puissantes dans la formation de la personnalité. C'est là qu'on commence à devenir celui qu'on deviendra adulte. Et si à cette époque-là, ce qui m'a vraiment forgé, c'était la bande dessinée. J'imagine que c'était, c'est peut-être ce qu'on peut appeler une vocation. En tout cas, c'était une très grande passion.
Fabien Toulmé, pendant combien de temps vous avez mené une double vie, entre guillemets, c'est-à-dire ingénieur le jour et dessinateur de BD la nuit ?
En fait, il y a eu, pour parler de cette vocation, il y a eu tout un moment de ma vie où cette vocation, je l'ai vraiment mise entre parenthèses, puisque à peu près de mes 18 ans à mes 29 ans, j'ai arrêté complètement de faire de la bande dessinée. Et en plus d'arrêter d'en faire, j'ai arrêté d'en lire. Donc j'étais vraiment très éloigné de cette vie-là, même de ce domaine-là de la bande dessinée. Et en fait, les choses ont la petite voix, peut-être qui me rattachait à la vocation de l'enfant, a commencé à se réveiller vers 28-29 ans, où j'étais gérant d'entreprise au Brésil. Et clairement, j'étais dans la situation que je détestais le plus, c'est-à-dire à la fois faire quelque chose que j'aimais pas, mais dire à des gens, manager des gens, pour leur dire « faites quelque chose que moi-même je n'aime pas ». Et je pense que le fait de me retrouver dans cette situation vraiment en contradiction avec la personne que j'étais a commencé à faire reparler cette petite voix qui m'a dit « souviens-toi, tu voulais faire de la bande dessinée ». Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai repris de la lecture de la bande dessinée et que j'ai recommencé à dessiner. Alors au début, c'était simplement dessiner pour me faire plaisir et pour retrouver un niveau suffisant, parce que pour être édité, il faut quand même dessiner relativement bien, en tout cas que ça soit clair. Et donc il y a eu tout un moment où je faisais pas de la bande dessinée, mais je dessinais le soir. Donc ça a commencé vers 29 ans. Et puis ma première bande dessinée est sortie en 2014, donc 5 ans après. Donc pendant ces 5 années, en fait, je vais dessiner le soir. Et petit à petit, il y a des espèces de points à étapes qui vont apparaître où, peut-être dans un entourage propre, on va me dire que ce que je fais est sympa à lire. Puis je vais commencer à être publié dans des revues à la publication un peu confidentielle, jusqu'à cette publication de ma première bande dessinée en 2014. Et là, effectivement, pour produire cette bande dessinée, il a fallu que je cumule mon boulot d'ingénieur dans la journée et ce métier de dessinateur le soir, parce que c'est pas avec une première bande dessinée qu'on peut arrêter du jour au lendemain de faire ingénieur.
Amanhã chega, chega, chega. Por onde anda você?
Amanhã chega, chega. chega, por onde anda você?
Foi pra bem longe, pra nunca mais me ver. Mas onde anda você?
Olho a estrada e às vezes amanhã me vê chegar, vive a me buscar todos os dias.
Mas sei por onde anda, vive a me buscar nos lírios, cachoeiras, nas correntezas do garça, no verde da arueira, no canto de Dona Sinhá.
Mas sei por onde anda, vive a me buscar no ipê amarelo da serra. Em tudo você está, na flor de laranjeira, em toda a beleza que há.
Alors Fabien Toulmé, cette première bande dessinée qui vous a vraiment lancé, si je puis dire, c'est un récit très autobiographique qui a ému des dizaines de milliers de lecteurs et qui nous a aidé aussi à porter un autre regard sur la trisomie 21. C'est un récit vraiment autobiographique qui s'intitule « C'est pas toi que j'attendais » où vous racontez l'attente, la naissance et l'accueil de votre fille, Julia, qui est porteuse de la trisomie 21. Quelle a été votre intention en dessinant ce récit très, très personnel sur l'attente de cet enfant ?
Alors, je pense que l'intention, je l'ai découverte après. C'est-à-dire que quand je l'ai fait, c'était de façon très, très spontanée et peut-être un peu naïf. En fait, je me suis dit que la première idée, en fait, c'était de faire de la bande dessinée. Peu importe le sujet, peu importe ce que j'allais y raconter, mais je voulais faire de la bande dessinée. Et donc, quand j'ai présenté ce projet à mon éditeur, il y avait dans l'idée que du temps a été passé entre la naissance de ma fille Julia et le moment où je proposais ce projet, et je me rendais compte de tout ce cheminement intérieur du père que j'étais, qui avait découvert la trisomie de son enfant à la naissance et qui petit à petit avait intégré la caractéristique de cet enfant jusqu'à arriver à un état d'amour. Et je me disais, c'est quand même assez beau comme cheminement. Et en fait, je voulais témoigner de ce cheminement. Comment, d'une situation qui paraissait mal engagée, parce que j'étais dans de la colère, j'étais dans du rejet, j'étais dans du déni, comment on arrivait à un état d'amour aussi pur et normal, finalement. Et donc, j'avais pas d'intention particulière, si ce n'est de témoigner de ce cheminement pour en faire une espèce de documentaire sur la transformation intérieure du père. Et donc, je m'étais juste dit, je veux raconter ce moment-là. Et dans ce périmètre de l'acceptation de l'enfant et l'amour de l'enfant, je veux tout raconter pour décrire toutes les étapes qui m'ont animé et qui peut-être seront intéressantes pour d'autres familles qui passent par le même genre d'expérience, ou peut-être des gens qui imaginent même pas que ça peut se passer. Donc il y avait cette intention vraiment de témoigner de ce cheminement intérieur.
C'est-à-dire que vous aviez déjà fait tout le chemin du passage du refus, du déni même, de la trisomie 21 de son enfant jusqu'à l'acceptation. Vous aviez déjà fait tout ce chemin où la rédaction de cette bande dessinée a été comme une thérapie qui vous a aidé à faire ce chemin?
Non, j'avais déjà fait ce chemin. Je pense que si le chemin n'avait pas été fait, j'aurais pas pu le raconter de cette façon. Parce que au moment où donc je propose le projet à mon éditeur en 2012, Julia a déjà 3 ans et en fait ce que je raconte dans la bande dessinée dure quelques mois finalement. Et justement, je pense que le fait d'avoir déjà fait ce chemin me permet d'avoir du recul et de mieux identifier ces étapes, peut-être d'être plus dur avec moi-même, parce que je pense que si j'avais été encore dans une situation un peu d'apprentissage ou de rejet, j'aurais peut-être un peu atténué certaines situations. Et non, je me disais, il faut vraiment être très naturaliste dans la façon de raconter cette...
Et puis très franc, moi je vais vous le dire franchement aussi, j'ai été très impressionné par les confidences que vous nous partagez. Vous êtes franc pour dire à quel point vous avez été déçu, vous avez été triste, vous avez été en colère. Enfin, vous vous mettez pas toujours en valeur dans cette BD. Il y a quelque chose de très franc. C'est pas trop difficile sur un sujet aussi sensible, quelque part, d'étaler tous ces états d'âme intérieurs qui sont parfois pas très beaux finalement.
Bah, comme le parti pris de cette bande dessinée, c'était de tout raconter. Et pourtant, je suis relativement timide et réservé sur les choses qui m'animent. Mais vraiment, je m'étais dit, il faut témoigner de ça.
C'est-à-dire
il faut que je raconte cette évolution de l'esprit, de quelle façon j'intègre cet enfant à ma famille et je finis par l'aimer. Et ça me paraissait important, que ça soit vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes proches, mais aussi vis-à-vis de ceux qui traversaient le même genre d'expérience, d'être le plus honnête possible.
Alors, mais vous l'avez été vraiment, parce que vous dites clairement, quand elle est née, vous pouviez pas la prendre dans vos bras, vous l'aimiez pas, enfin, vous aviez pas de sentiment d'amour, vous aviez même un certain refus.
Ah oui, oui.
Et on voit la différence du comportement de votre épouse, qui est brésilienne, qui, elle, l'a accueillie tout de suite, votre petite fille, qui l'a accueillie tout de suite sans problème. Et puis vous, le père, vous vouliez pas la prendre, vous vouliez même pas la toucher.
Ouais, c'était du rejet complet. Et j'ai découvert, après la sortie de la bande dessinée, dans des échanges avec des lecteurs qui avaient connu le même genre d'expérience, que finalement, c'était quelque chose d'assez universel.
Pour les pères, plus que pour les mères.
J'ai eu des retours de mères aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de vivre ce genre de situation. Il y a des gens qui l'acceptent très bien. Il y en a d'autres non. Et en tout cas, dans les retours qui m'ont été faits, j'étais clairement pas le seul à qui c'était arrivé. Et j'ai eu aussi beaucoup de retours de parents qui me disaient que cette bande dessinée les avait finalement aidés à passer ces étapes peut-être plus vite que moi je l'avais fait. Donc non, il y avait vraiment l'idée d'être sincère. Et autre chose qui a sans doute participé du fait que je me suis livré comme ça, c'est que c'était ma première bande dessinée. Et j'ai peut-être été un peu pur dans l'idée que j'allais être lu par des dizaines de lecteurs et que finalement ce serait un livre qui serait fait plus pour moi et mes proches plutôt que pour le public.
Vous pensiez pas que ça allait rejoindre un large public.
J'ai été un peu débordé par la gauche et la droite. Mais c'était très bien. Peut-être que si je refaisais cette bande dessinée aujourd'hui, j'irais un peu moins loin. Mais en tout cas, voilà, ça a été fait comme ça et j'en suis très content au final que ça soit la première BD.
Bah, vous avez eu beaucoup de retours après la publication de cette bande dessinée, surtout des parents, des proches d'enfants trisomiques ou encore plus largement.
Ah, j'ai vraiment eu tout type de retour. Alors, c'est sûr que j'ai globalement été invité par peut-être des associations ou même des gens en lien avec la médecine, parce que ça les intéressait pas mal aussi, de voir de quelle façon, quand on est parent, on peut recevoir ce genre de nouvelles et de quelle façon on le vit.
On voit les comportements très différents de certains médecins. Il y a une certaine docteur Lebrun qui a une attitude incroyablement bienveillante qui vous rassure. Et puis un autre docteur aux yeux blancs, comme vous dites, qui vous a pas aidé.
C'est là où on voit que finalement, comme chez les auteurs de BD ou les parents, chez les médecins, c'est des humains aussi. Mmh. Donc en fonction des personnalités, en fonction de l'expérience, les façons d'aborder cette question sont différentes.
Et le regard des autres, parce que c'est toujours la grande question du regard des autres sur un enfant trisomique ou sur des parents trisomiques. Qu'est-ce que vous avez appris là-dessus sur le regard
Je me
des
suis
autres.
Rendu compte que finalement, le regard des autres, il est surtout problématique quand son propre regard à soi n'est pas totalement exempt de jugement ou de reproche ou de culpabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai parfaitement intégré ce qu'était Julia et que je l'ai aimée, la question du regard des autres a disparu parce que j'y faisais plus attention. En fait, au tout début, je cherchais dans les autres une espèce de validation du fait que mon enfant n'avait rien, visuellement n'avait rien. Et je pense que le fait de vérifier que les gens regardaient ou pas, c'était pour me rassurer ou au contraire peut-être pour me faire du mal. Et à partir du moment où cette culpabilité, cette colère avait disparu chez moi, le regard des autres, j'ai pu faire attention.
En tous les cas, je recommande vraiment fortement cette bande dessinée que vous avez publiée. C'est pas toi que j'attendais.
Visage, RCF.
Fabien Toulmé, on va parler d'une autre bande dessinée que vous avez publiée après, en 2017. C'est les Deux vies de Baudouin. Alors, j'aimerais que vous racontiez avec vos mots le pitch de cette BD.
Ah, c'est dur à raconter le pitch parce que quand je raconte le pitch, j'ai tendance à dévoiler un peu trop
de
choses.
Non, il ne faut pas dévoiler la chute.
Okay.
Alors arrêtez-vous avant la chute, qu'on ait la surprise.
Surtout, il y a un cœur d'histoire qui, je me suis rendu compte en le pitchant, ne correspondait pas vraiment à l'histoire. Mmh. C'est-à-dire que le pitch tel que je le présentais, c'était un jeune homme devient juriste et se rend compte au moment où on lui annonce qu'il est atteint d'un cancer, qu'il a fait un mauvais choix de vie. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ce pitch, ça déplaçait le cœur du sujet vers la maladie, alors que le cœur du sujet, c'est pas la maladie. C'est-à-dire que la maladie, c'est finalement un prétexte à la bascule et à l'enclenchement de sa deuxième vie.
Mmh. On rejoint ce qu'on disait dans le début de notre conversation, c'est-à-dire est-ce qu'on veut toute sa vie rêver sa vie, mais pas la vivre, ou est-ce qu'on veut vraiment vivre sa vie et vivre ses rêves ?
Voilà.
C'est ça, le pitch de cette...
C'est ça, le cœur de cette histoire, c'est finalement une espèce de double de moi-même, c'est Baudouin qui devient juriste et par épisode, par flashback, on se rend compte que finalement toute son enfance, il a rêvé de devenir musicien. Et dans cette histoire, je raconte de quelle façon, aidé de son frère Luc, qui est vraiment à l'opposé en termes de caractère et de trajectoire de Baudouin, va l'aider à faire la transition vers, ou en tout cas essayer de faire la transition vers son rêve de jeunesse. C'est ça cette histoire.
Il y a une phrase quand même que j'ai trouvée très, très intrigante et très... qui nous invite à réfléchir dans ce livre, c'est Luc qui dit à Baudouin qu'il doit payer aujourd'hui les besoins qu'il s'est lui-même créés. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, bah ça rejoint le genre de pensée qu'on peut avoir. Enfin, par exemple, je me souviens que j'avais lu une interview de Pierre Rabhi qui racontait comment, arrivant en région parisienne, il avait trouvé un travail aux usines Renault, il me semble. Et en fait, son salaire aux usines Renault lui permettait simplement de payer son loyer de son petit appartement. Et finalement, il se retrouvait pris dans une espèce de cercle où, pour pouvoir payer son appartement, il était obligé de travailler. Et pour pouvoir travailler, il payait son appartement. Donc, il s'était créé ce besoin, entre guillemets. On a tous besoin de se loger, mais il était dans une espèce de cercle comme ça où il faisait des choses qui étaient insatisfaisantes. Et il avait du mal à s'en sortir. Il était pris dans cette espèce de cercle vicieux. Donc voilà, c'était pour résumer ce genre de situation ou d'idées qu'on peut avoir de la vie quand on rentre dans une profession qui nous plaît pas et on a du mal à en sortir parce qu'on a bien besoin de se loger, manger, s'amuser, voilà.
Et je trouve que le thème de la famille est assez récurrent dans vos différentes bandes dessinées. On le voit très bien dans le récit autobiographique « C'est pas toi que j'attendais ». Mais vous avez fait une autre BD qui s'appelle « Suzette ». Ou le grand amour, c'est une petite fille qui emmène sa grand-mère retrouver le premier amour de sa vie. Dans l'Odyssée d'Hakim, on voit l'importance de la famille, de cette famille de migrants. Partout, il y a des thèmes de la famille, y compris dans votre dernière bande dessinée, En lutte, où on voit à quel point ces femmes militantes, elles parlent de leur famille, elles parlent de l'importance du regard du père, pour notamment Chanceline, hein, du Bénin. Ce thème de la famille, vous vous rendez compte qu'il est quasiment omniprésent dans votre travail ? Ou c'est intentionnel ?
C'est pas intentionnel. Si j'essaie de faire un petit pas de côté et de m'auto-analyser, je pense que parce que la famille, c'est un super terreau à histoire, parce que c'est des relations à la fois très simples et très complexes. Très simples parce qu'on est de la même famille, donc ça crée naturellement une proximité, etc. Et c'est très complexe parce qu'il y a plein de courants contraires. Dans le cas de Chanceline, le besoin de prouver. Chanceline, pour moi, c'est vraiment l'exemple de cette complexité.
Chanceline, c'est une béninoise qui est militante pour aider les filles à s'émanciper.
Voilà.
C'est l'une des trois héroïnes de votre dernier livre en lutte.
Le cœur de son action, c'est lutter contre les grossesses précoces au Bénin, en particulier en allant faire de la sensibilisation auprès des ados en milieu rural.
Mais là, on voit à quel point le regard de son père et la présence de son père a été déterminante finalement dans son choix.
Ben oui, puis ça illustre la complexité dont je parlais, parce qu'on se rend compte quand on écoute son histoire que son père était quelqu'un de très dur, très sévère, qui la battait. Et en même temps, elle a éprouvé ce besoin de le rendre fier. Et puis, de ce qu'elle explique, elle en est aussi là parce qu'elle éprouvait cette espèce d'amour, admiration pour ce père-là. Et pour moi, ça illustre parfaitement toute la complexité de ces relations familiales. Et là où il y a de la complexité, il y a de l'histoire, en fait. Si les choses sont trop simples et linéaires, ça en fait des histoires un peu fades. Donc, pour moi, la famille, c'est vraiment la mine d'or pour trouver des bonnes histoires, quoi.
Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika. Ningekuwa mariwe, ningekuwa dada, na shinga na manis. sinawe ningekuwa mamalaika nashingana mani singawe ningekuwa mamalaika esa zasudu waduhu nyingu
Fabien Toulmé, on pourrait passer une heure sur chacun de vos récits, mais j'ai envie que les auditeurs découvrent un peu, je dirais, l'amplitude déjà de votre travail de dessinateur de bande dessinée. Vous êtes devenu un reporter dessinateur de bande dessinée. Et j'ai envie de dire, votre grande œuvre, un peu comme pour les compagnons, ça a été l'Odyssée d'Hakim. 3 tomes sur 3 ans. Un travail incroyable qui vous a valu d'ailleurs le prix France Info 2021 de la bande dessinée d'actualité et de reportage. C'est le parcours d'un réfugié qu'on appelle Hakim, que vous appelez Hakim, depuis sa Syrie natale jusqu'en France, à Aix-en-Provence, où vous l'avez rencontré. Comment est né déjà ce projet monumental de découvrir le parcours d'un migrant et de sa famille?
Alors déjà, il est né parce que j'avais pas conscience qu'il serait monumental.
si vous aviez su.
Si j'avais su, je sais pas si je me serais lancé dedans. Non, en fait, il est né parce que après avoir fait de l'autobiographie, après avoir fait de la fiction avec les devis de Baudouin, mm-hmm. J'ai eu envie de faire autre chose. En fait, j'aime pas la routine. Et je pense que ça se retrouvait y compris dans mon métier d'ingénieur avant. Mm-hmm. Et n'aimant pas la routine, je me suis dit, j'essaierais bien d'aborder un autre genre de bande dessinée, quelque chose que je sais pas faire, en particulier du témoignage, la retranscription de témoignages. Et en fait, cette envie est arrivée en 2015, au moment où il y a eu un accident d'avion. Donc, c'était un pilote dépressif de la Germanwings qui s'est suicidé au manche de son avion et qui a tué dans le même coup tous les passagers. Et moi, quand j'ai vu ces informations, j'étais vraiment dévasté parce que j'ai peur de l'avion et du coup, je me projetais dans cette situation.
Vous, avec votre famille, dans l'avion.
Vraiment un effet de projection. Je m'imaginais dans la situation. En plus, il y avait des détails aux infos. Ils racontaient comment ils étaient enfermés, etc. Et ça, il y a vraiment eu un effet très puissant chez moi et quelque chose de
l'ordre d'identification, d'identification avec ces gens qui sont morts.
Et dans le même temps, en 2015, on est vraiment au plus fort de la crise en Syrie avec un exode de beaucoup de personnes qui essaient de traverser la Méditerranée et qui, pour certains, malheureusement, décèdent en Méditerranée. Et à la fois dans la perception que j'ai eue de ce drame de l'exode des réfugiés et par rapport à l'accident d'avion et même la différence de traitement par les journaux télévisés, je me suis dit, en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi j'arrive pas à ressentir intellectuellement, je ressens le drame des réfugiés. Mais d'un point de vue viscéral, c'est assez différent. Et en fait, je me suis dit, tout simplement, vous parlez d'identification, parce que j'ai du mal à comprendre ce qui anime quelqu'un. Intellectuellement, je peux le comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir une vie avant? Qu'est-ce qui se passe pour que la personne ait besoin de partir? Et comment ça se passe sur le trajet pour venir jusqu'à chez nous? Je me suis dit, pour répondre de ce manque que j'ai, je vais aller tout simplement poser la question à quelqu'un qui puisse me raconter son voyage. Et voilà comment je me suis lancé dans cette aventure de l'Odyssée d'Hakim.
Comment vous l'avez rencontré, Hakim? Comment vous avez choisi de raconter sa vie à lui? Parce que des migrants syriens arrivés en Europe, il y en a eu des centaines de milliers. Lui, Hakim, pourquoi?
Eh bien, je n'ai pas choisi. C'est le premier qui a accepté d'eux, avec qui j'ai travaillé. Non, en fait, au début, je me suis dit, je vais appeler les CADA, c'est les centres d'accueil. Et puis, j'arrivais pas à avoir j'avais pas de lien avec des associations ou autres. Donc, j'ai lancé comme ça un peu des lignes au hasard pour essayer de récupérer des numéros. Et c'était compliqué. Et en fait, par l'intermédiaire d'une amie journaliste, je suis tombé sur le dossier de demande d'asile de Hakim que j'ai lu rapidement. C'était assez synthétique, donc il y avait son histoire. Mais c'est pour ça que je disais, je me doutais pas que ça ferait 3 tomes parce qu'il y avait quelque chose de très résumé. En fait, ce document a été destiné à l'administration française pour justifier de la demande d'asile. Et donc, je demande à cet ami journaliste si Hakim accepterait de témoigner. Donc, par son intermédiaire, j'arrive à le rencontrer. Je lui expose le projet et lui ne connaît pas la bande dessinée, donc je suis venu avec mes précédentes bandes dessinées, donc ce n'est pas toi que j'attendais, les devis de Baudouin. Et en fait, il a accepté de témoigner, non seulement parce qu'on était dans un moment où la question des réfugiés était peut-être finalement comme récemment, ça n'a pas forcément évolué, mais cette question des réfugiés, du grand remplacement, tout ça se mélangeait dans un amalgame un peu nauséabond. Voilà. Donc lui, il y avait dans cette idée de changer le regard sur eux. Et il y avait aussi l'idée d'une transmission pour ses enfants, puisqu'il a eu des enfants et il voulait raconter son histoire à ses enfants par l'intermédiaire de cette bande dessinée. Et voilà comment on s'est lancé dans l'histoire.
Qu'est-ce que vous appelez une rencontre vraie, Fabien Toulmé ? Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre vraie ? Parce qu'on le sent dans toutes vos BD actuellement, vous essayez vraiment de rencontrer la personne qui est en face de vous. Et vous n'êtes pas journaliste. Vous le dites, hein, je ne suis pas journaliste. En même temps, vous faites un travail de journaliste. Vous questionnez les gens sur leur vie, sur leurs engagements. Donc, qu'est-ce que c'est que pour vous une vraie rencontre, une rencontre vraie ?
Je pense qu'une vraie rencontre, elle s'installe sur la durée. Et du peu que j'ai pu voir du travail journalistique, alors pas par moi, mais par d'autres journalistes avec qui, notamment dans En Lutte, je suis accompagné par un journaliste de TV5 Monde. Et quand je vois la façon dont ils travaillent, c'est beaucoup plus... incisif, c'est beaucoup plus synthétique dans la façon d'aborder le sujet parce que
ça c'est un journaliste de TV5 Monde qui en fait faisait un sujet sur vous tout autant que sur la béninoise Chanceline dont on parlait tout à l'heure quoi, c'était un peu sur les deux quoi.
Voilà.
Et ça a dû être rapide en une journée à peu près.
C'est ça. Et j'imagine que tout ça est guidé par les contraintes de budget, les contraintes de chaîne et en fait, moi dans le cadre de mon travail, je suis pas j'ai pas d'impératif de. Alors j'ai des impératifs de délai, mais qui sont des temps beaucoup plus longs que en radio, en télé ou en journal papier. Et donc la vraie rencontre, c'est la possibilité de passer du temps long avec la personne.
Mais c'était le cas avec Hakim. Hein, ça a duré pendant quoi ? Combien
Un an et demi.
Un an et demi de rencontre chez lui à Aix-en-Provence.
Il faut le temps de s'apprivoiser, à la fois moi d'apprivoiser la personne que j'interviewe parce que il faut que je comprenne qui elle est au fond. Avec des questions, on peut commencer à cerner. C'est comme si on se cherchait, on commence à comprendre qui on est. Puis au bout d'un moment, quand on a confiance, fatalement, il y a quelque chose de plus intime qui se dégage, que ça soit par des mots ou pas par des mots d'ailleurs. Simplement le fait de partager un repas, le fait de partager un moment de marche ou d'aller dormir chez quelqu'un, tout de suite, ça fait évoluer la relation sur d'un segment journalistique vers un segment d'ordre plus amical. Et finalement, moi, c'est dans ce registre-là que je travaille plus.
Il faut s'apprivoiser, comme dit Saint-Exupéry, en fait.
C'est ça. Il faut apprendre à se connaître. Mais de la même façon que moi, je vais apprendre à la connaître et donc pouvoir poser des questions qui sont peut-être plus pertinentes, la personne que j'interview va me connaître et va se sentir en confiance pour livrer telle ou telle chose.
C'est pour ça qu'Hakim a pu vous livrer des choses difficiles et douloureuses. Je pense notamment à son passage en prison en Syrie, puisqu'il a été arrêté, il a été torturé. J'imagine que ça ne devait pas être facile pour vous et pour lui d'en parler.
Tout ça, c'est fait vraiment petit à petit. D'abord, il y a eu la phase d'apprivoisement, où je pose des questions qui sont peut-être plus génériques sur sa vie d'avant, des choses qui vont l'installer dans un clip. Tout ça n'est pas conscient. C'est-à-dire là, j'essaie de décortiquer, mais ça fait un peu ça fait un peu trop, prédateur. J'apprivoise ma proie et après, pouf, je l'attaque.
Je vous oblige à relire ce qui s'est passé naturellement, finalement, sur un an et demi, quoi.
C'est ça. Non, mais en fait, c'est comme dans les relations humaines, quand on rencontre quelqu'un dans un café et qu'on commence à parler avec la personne, on dit pas tout de suite, et ton divorce. On commence par le connaître et puis on apprend qu'il a divorcé. Puis éventuellement, en fonction du temps qui est passé et de la connexion qui s'est créée, on ose aborder tel ou tel sujet. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Hakim. On a commencé à parler de sa jeunesse en Syrie parce que moi, je voulais comprendre.
Il était heureux en Syrie, hein.
Il était heureux. Moi, je voulais pas simplement qu'il me raconte ce parcours de la Syrie à la France. Je voulais qu'il me raconte sa vie d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire de tout perdre? Qu'est-ce que ça veut dire de devoir quitter une famille, une entreprise?
C'était le profil de l'horticulteur qui gagnait bien sa vie, qui avait sa maison, sa voiture et qui avait pas du tout envie de venir se réfugier en France.
Ah oui, c'est lui au contraire. Son idée, c'était vraiment de partir provisoirement de Syrie le temps que les choses se calment et d'y rentrer. Et puis l'évolution des choses a fait qu'il a dû partir plus longtemps, puis s'installer définitivement maintenant ici. Donc il y avait, au début, ces questions qui étaient plus sur sa vie de tous les jours d'avant. J'imagine que lui, ça le remettait peut-être dans un état d'esprit positif. Et puis naturellement, après, au fil des semaines, on est arrivé au moment du basculement, comment on part. Et puis à ce moment-là, moi, je lui dis, mais comme à toutes les personnes que j'interviewe, vous n'êtes pas obligé de tout me dire, en fait. Vous racontez ce que vous avez envie de raconter. Et s'il y a des passages qui sont difficiles ou qui sont personnels, gardez-les pour vous. Et puis moi, je ferai... La bande dessinée, c'est aussi de l'ellipse, c'est aussi des non-dits, et je peux illustrer des non-dits, je peux illustrer des choses qui se sont pas passées ou qui n'ont pas été racontées.
Qu'est-ce que la BD peut apporter, je dirais, de plus qu'un récit journalistique, justement? On peut lire dans pas mal de revues des témoignages écrits de migrants. Vous, par votre métier de dessinateur de bande dessinée, qu'est-ce que vous pouvez apporter de différent? Pas forcément de plus, mais de différent.
Je pense que la différence principale, c'est la mise en scène. Là où on va re-raconter par des mots des situations, moi je vais les mettre en scène. Je pense qu'après c'est une question de fonctionnement de cerveau. Il y a des gens qui seront plus réceptifs à l'écriture avec des mots. Il y a des gens qui seront plus réceptifs à la mise en scène par l'image. J'imagine que moi mon cerveau est plus dimensionné pour l'image. Ça renvoie là à tout ce que je disais tout à l'heure sur le fait de raconter en image, la coexistence du dessin et du texte. Bah, pour moi c'est ça qu'offre la bande dessinée, c'est la possibilité de reconstituer des événements auxquels j'assiste pas et de les remettre en scène par l'image.
Et comment vous faites justement? Vous les imaginez ou vous avez des documents, des photos, vous regardez des films pour pouvoir vous dessiner ce que vous n'avez pas vu et vécu?
Bah déjà, j'essaie de m'appuyer sur le maximum de choses concrètes et tangibles, c'est-à-dire ça peut être les propos de la personne qui témoigne, ça peut être des photos quand je vais sur place, ça peut être Internet qui est quand même... Là, on est dans une bibliothèque, c'est magnifique.
Et on Internet, réalise l'interview.
Là, on a tout ça à portée de clavier, donc c'est génial. Donc une fois que j'ai tous ces éléments qui sont très concrets, le principal de ces éléments concrets, c'est quand même l'explication du témoin. Je vais vraiment le bombarder de questions en lui disant quel était ton état d'esprit ou comment était l'endroit dans lequel tu étais, enfin de façon plus douce. Hein. Là, ça fait un peu ça fait un peu rude, mais je vais vraiment lui poser plein de questions. Des fois, je vais faire des petits croquis pour qu'il me valide telle ou telle chose qu'il m'a raconté et que j'arrive à me le représenter. Et une fois que j'ai toutes ces fondations solides et tangibles, là, j'ai commencé à construire dessus. On revient peut-être là au génie civil et à la construction. Je vais commencer à enrober tout ça. Ce serait plus une sorte de squelette. Et moi, je vais rajouter de la chair pour faire prendre vie à tout ça.
Et alors, Fabien Toulmé, pas facile comme question, mais qu'est-ce qui a vraiment complètement changé sur votre regard concernant les migrants après avoir travaillé comme ça pendant 3 ans sur cette odyssée d'Hakim et d'avoir côtoyé une famille de migrants?
Parce que j'imaginais en amont, c'est-à-dire incarner des notions très vagues comme réfugiés, migrants, a fonctionné à plein, puisque ayant vécu 1 an et demi avec Hakim, l'ayant écouté raconter son histoire, évidemment, maintenant, quand j'entends ce genre de nouvelles, immédiatement me viennent en tête toutes les images que j'ai d'abord imaginées, puis que j'ai dessinées. Donc il y a ce travail d'identification qui a opéré. Et puis au-delà de ça, je pense que quand on s'intéresse à l'histoire de quelqu'un d'autre, par extension naturelle, ça donne envie de s'intéresser à l'histoire de plus de gens, de s'ouvrir au monde, en fait. On en revient à la notion de voyage et d'intérêt pour les cultures et d'intérêt pour les gens.
Oui, mais là, Fabien Toulmé, je pense qu'il y a quand même, dans vos bandes dessinées, le désir de faire tomber des a priori. Je crois que c'est ça qui est assez fort chez vous. Vous avez fait tomber des a priori sur la trisomie 21 avec votre première bande dessinée. Là, vous voulez faire tomber des a priori aussi sur les migrants.
Ça, c'est des rebonds successifs qui vont accompagner l'histoire que je raconte. C'est-à-dire que moi, quand j'ai envie de raconter une histoire, je ne raconte pas l'histoire dans un objectif de message ou de militantisme. Je raconte l'histoire
parce que... Vous n'êtes pas un militant?
Non. Pas trop.
Pas trop. Dans votre... On va en parler dans un moment.
Après, je vous expliquerai, on va parler dans lutte.
Vous n'êtes pas un militant.
Je suis pas un militant. Et donc, quand je raconte une histoire, j'ai envie de la raconter parce qu'elle m'apporte une émotion. Ou plutôt parce que c'est une émotion qui éveille en moi l'envie de raconter l'histoire. Et évidemment, quand on fait une histoire, elle est accompagnée par une multitude de messages ou de... Mais ça, je contrôle pas tout ce qui accompagne cette histoire. Et puis d'ailleurs, peut-être que le message sera reçu de façon différente en fonction du lecteur. Peut-être qu'il y a des lecteurs en lisant « Ce n'est pas toi que j'attendais » qui verront telle ou telle partie de ce dit message ou d'autres pas. Moi, vraiment, le cœur de mes bandes dessinées, c'est de raconter des histoires qui touchent.
Et après, chacun a sa lecture et son analyse.
C'est ça.
Vous, il n'y a pas un message que vous voulez faire passer sur les migrants, par exemple, et les a priori qu'on peut avoir sur les migrants.
Non. J'ai conscience du fait qu'en racontant ce genre d'histoire, ça peut avoir cet effet, mais ce n'est pas la recherche de cet effet qui me donne envie d'aller vers cette histoire.
Thank you.
Alors Fabien Toulmé, on va prendre une autre bande dessinée que vous avez réalisée, qui vient de paraître aux éditions Delcourt. C'est Les reflets du monde en lutte. Quel est le titre d'abord ? C'est Les reflets du monde en lutte.
Les reflets du monde, c'est le titre d'une série.
Que vous commencez alors.
Que je commence.
Par en lutte.
Par en lutte. Les reflets du monde, dans l'idée, c'est par tome, m'intéresser à une thématique qui fait un peu le monde dans lequel on vit. Et au lieu de l'aborder sous un angle très analytique, didactique, d'aller rencontrer des gens dans trois endroits, de rencontrer des gens qui traversent cette thématique pour qu'à travers leur histoire, on comprenne quelque chose de plus global. Et donc là, c'est en lutte, puisque sur ce premier tome, je me suis intéressé à la question du militantisme et de la lutte. Et donc, pour aborder...
À travers trois portraits de femmes, hein, voilà. Notamment une Libanaise, Nidal, une Brésilienne, qui est très engagée à João Pessoa, au nord-est du Brésil, et puis une autre, on en a parlé, au Bénin. Donc trois portraits de femmes. C'était une volonté de présenter plutôt des militantes femmes sont engagées dans
pas
la lutte.
Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que depuis que la bande dessinée est sortie, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'était une volonté de présenter trois femmes?
Sur la couverture, excusez-moi, il y a que des femmes, et puis vous, dans un coin, avec votre petit carnet.
Je me posais juste la question de, et si ça avait été trois hommes, est-ce que cette question aurait été posée? Et c'est là que c'est quand même intéressant.
On vous aurait dit, mais pourquoi pas de femmes?
Ah oui, sans doute, probablement. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chacune de ces rencontres a été un hasard quasi total. Mais surtout, en fait, ce que j'ai réalisé, puisque chacun de ces reportages est ponctué par un échange avec un sociologue qui m'apporte son éclairage érudit sur la question, que je n'ai pas la connaissance du militantisme.
C'est Olivier Filliol.
Olivier Filliol, voilà. Mmh. Et donc, lui m'expliquait que les femmes ont toujours été présentes dans les luttes, sauf qu'habituellement, elles sont plutôt invisibilisées, sauf sur certaines thématiques où c'est naturellement elles qui vont prendre un peu le lead. Et il se trouve que les luttes auxquelles je me suis intéressé sont habituellement plutôt des luttes dont s'emparent les femmes. Et donc, ces luttes, c'est la maisonnée, la santé et l'enfance. Voilà. Et donc, c'était à la fois un hasard et finalement, pas totalement un hasard, que je me retrouve en présence de femmes militantes.
Alors, on va faire rapidement connaissance avec ces femmes. Il y a d'abord Nidal, au Liban. Vous avez été à deux reprises. Alors, pour la révolution libanaise de 2019, on prononce ça comment ?
Saoura.
Saoura. Vous étiez là. Et puis après, vous y êtes retourné après l'explosion du port de Beyrouth en octobre 2021. Nidal, pourquoi elle ? Pourquoi cette femme qui était un peu une sorte de porte-voix des manifestations de Saoura ?
Eh bien, c'était du hasard. Mais existe-t-il ce hasard finalement ? Je ne sais pas. Mais j'étais au Liban pour tout à fait autre chose. En fait, j'y allais pour un salon du livre. Et quasiment au moment où j'arrive, le salon est annulé parce qu'il y a le début de cette révolution. Et je me dis qu'on est peut-être en train de vivre quelque chose d'historique parce que tout le pays est en ébullition, parce qu'il y a une énergie assez folle qui se dégage de ce moment-là, et je cherche quelqu'un qui pourrait me raconter ce qui se passe, et on me met en contact avec Nidal. Voilà. Donc c'est pas totalement du hasard, mais la rencontre avec Nidal est quand même n'a pas été choisie. J'ai pas choisi Nidal parmi d'autres.
Et qu'est-ce qui vous a touché chez cette femme qui était là, qui croyait à cette révolution qui allait faire changer le Liban, qui allait faire tomber les politiciens véreux qu'elle critiquait?
Ce qui me fascinait et ce qui me fascine d'une façon générale chez les gens qui luttent, c'est cette espèce de foi en un changement, et là qui était un changement radical, quoi. Dans un pays malade, imaginer tout transformer, c'était qu'il fallait quand même un esprit guerrier, quoi. Mmh. Et puis un esprit de sacrifice, parce qu'elle, elle a subi du dénigrement de la part du pouvoir. On l'a présentée comme une agente de la CIA. Enfin, elle a eu à subir les conséquences de son engagement.
Et elle est restée. Elle n'est pas partie.
Elle n'est pas partie, effectivement. Et voilà, je pense qu'une certaine façon, ça me fascine, ça, cette espèce de don de soi pour un bien commun. Et son parcours me paraissait assez symbolique de ce qu'est le Liban, c'est-à-dire quelqu'un de jeune qui est plein d'envie, d'énergie, qui est obligé de se démultiplier entre son boulot de clown, avoir un Airbnb dans son propre appartement, être journaliste, etc., pour arriver à boucler ses fins de mois. Et voilà, c'est un mélange d'énergie, d'espoir et en même temps un fond de désespoir qui me...
Ben oui, parce que vous l'avez vu au moment de l'espoir durant cette saura, ces manifestations. Et puis, vous l'avez vu après, une fois que ces manifestations se sont complètement éteintes. Puis vous le rendez bien compte dans la bande dessinée, où on voit la place des martyrs, qui était un lieu d'ébullition au moment de la saura. Et après, quand vous y retournez, c'est fini, c'est redevenu un parking. Et la vie quotidienne a repris. Comment elle a vécu ça, finalement, l'effondrement de cet espoir de changement?
Ce qui était intéressant, c'était de l'avoir sur deux temps très courts, mais distants de 2 ans. C'est-à-dire que la Nidal que j'ai vue en 2019, c'était vraiment une Nidal guerrière et qui était convaincue que les choses changeraient ou alors les choses iraient très très mal et elle serait obligée de s'exiler au Canada. Et d'ailleurs, quand je l'interrogeais sur le pourquoi d'appeler ce mouvement la Saura, qui veut dire révolution, alors que les choses ne sont pas faites, elle m'a dit « mais parce que ça va changer ». En fait, elle en était vraiment convaincue. Et donc, quand je reviens 2 ans après, je vois quelqu'un d'abattu. En fait, même physiquement, je l'ai trouvé triste. J'ai senti qu'il
s'était
passé...
Parce que le pays s'enfonçait encore plus dans la crise économique et dans la crise politique.
Bah, non seulement politiquement, les choses n'ont pas tellement évolué. Mais en plus, il y a eu, comme partout ailleurs, le Covid. Il y a eu l'explosion du port de Beyrouth qui a fait beaucoup de morts, de blessés. Et puis, il y a eu surtout l'économie qui était vraiment au plus bas, quoi. Et alors les choses non seulement n'avaient pas évolué, mais Nidal n'avait pas quitté le pays et elle était résignée, mais à l'image de tous les Libanais. Et du coup, elle m'expliquait que les Libanais n'avaient même plus la force d'aller lutter parce que leur préoccupation était ailleurs. Leur préoccupation, c'était pouvoir avoir de l'électricité, pouvoir s'acheter des médicaments, pouvoir s'acheter à manger. Et elle me disait que pour lutter, il faut au moins avoir un confort minimum. Sinon, on est obligé de revenir à des choses plus fondamentales pour l'homme.
On le sent dans cette bande dessinée, vous avez une admiration pour ces femmes que vous avez rencontrées, aussi bien Nidal du Liban que ces femmes à João Pessoa au Brésil qui sont engagées pour protéger leur quartier en fait, qui doit être rasé par la volonté du maire pour faire un pôle touristique, et eux ils résistent parce qu'ils ne veulent pas bouger du bord de la rivière. Et vous dites, j'admire l'abnégation de ces gens-là, de leur engagement. Et il y a quand même... Un passage intéressant, c'est que votre sociologue, il vous fait redescendre un peu de votre admiration. Il dit, mais vous savez, ces gens-là qui donnent et qui s'engagent, ils reçoivent aussi quelque chose.
Ouais, parce que je pense que comme un peu tout dans la vie, quand on commence à raconter des histoires, peut-être justement parce que c'est de la bande dessinée, il y a une volonté peut-être inconsciente de rendre les choses nobles, belles systématiquement. Et donc
d'idéaliser un peu la situation.
D'idéaliser. Hein. Et en fait, c'est là que l'intervention du sociologue, elle était très intéressante. C'est que, basiquement, on est quand même des êtres humains et on fonctionne selon des schémas qui sont assez basiques, quoi. Il m'a parlé de sociologie des rétributions. En fait, il m'a expliqué que rien de ce qu'on fait dans la vie n'est totalement gratuit. Alors, quand je dis gratuit, c'est pas forcément parce qu'on va recevoir de l'argent ou des postes ou de... Voilà, mais... Parce qu'en fait, notre cerveau est fait comme ça. Pour s'engager dans des choses qui paraissent assez dures ou qui peuvent sembler être de l'ordre du sacrifice, il y a quand même quelque part une rétribution qui vient compenser ce sacrifice.
Qui sont sous la forme de reconnaissance, quelque
reconnaissance.
Part. Et votre présence auprès d'elle à dessiner une bande dessinée sur elle, c'était aussi quelque part une forme de reconnaissance, non ?
J'imagine. Peut-être ça serait de donner à mon intervention plus de valeur qu'elle n'a vraiment, mais j'imagine effectivement que le fait de qu'on parle de ces luttes, déjà il y a une espèce de sensation que ce qu'on porte, la voix qu'on porte va être partagée par d'autres, et là on est sur une forme de rétribution. C'est quelque chose qui est quand même plus noble que l'idée de recevoir de l'argent ou autre. Mais effectivement, ça fait partie de ces choses qui peuvent faire qu'on s'engage. Le fait de partager avec d'autres des moments comme ça un petit peu sacrés, des moments forts en émotion, voilà, ça fait partie de ces rétributions.
Fabien Toulmé, vous avez trouvé votre voie, là, votre veine, à travers ces bandes dessinées type reportage, analyse de la situation d'un pays ou d'un engagement. Vous allez... creuser cette voie, ou comme vous me l'avez dit tout à l'heure, j'aime le changement, ça va pas durer, vous allez faire autre chose.
Ouais, j'ai peur de la routine. Ouais. Donc l'idée, c'est effectivement, comme je suis parti sur une série, c'est de faire d'autres tomes de Reflets du Monde, mais l'idée, c'est aussi de faire autre chose.
Alors, ce serait quoi, par exemple? Quel Reflet du Monde est-ce que vous avez envie de travailler maintenant?
Et là, je suis au tout début de la réflexion. Mais je suis surtout en train de travailler sur une série jeunesse avec un dessinateur. Donc là, c'est encore un autre segment de bande dessinée. Mais c'est ça qui me plaît, en fait, c'est de faire plein de choses. Je suis en train de travailler aussi sur un projet audiovisuel de film. Et fatalement, voilà, il y aura un retour vers Les Reflets du Monde 2 sur une autre thématique, mais j'ai pas encore totalement arrêté le.
Puis vous pouvez pas trop le dire non plus, hein. Il y a des secrets un peu de.
Ouais, bah disons, tant que tout est pas, tout est pas fixé, bouclé, j'évite de trop en dire.
Et alors, aujourd'hui, on est revenu sur votre parcours, hein, sur ce. Oui, c'est un peu cette frustration que vous aviez quand vous étiez ingénieur. Vous avez pu réaliser votre rêve de devenir dessinateur de bande dessinée. C'est ce que vous faites à temps plein aujourd'hui. Vous faites quand même partie de cette petite élite, hein, des dessinateurs de bande dessinée qui arrivent à en vivre et qui ne font que ça. Vous n'êtes pas nombreux, hein, dans la profession, il faut le dire quand même. Qu'est-ce qui donne du sens aujourd'hui et du goût à votre vie ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Bah, je pense que en fait, il y a une espèce de quête et de l'envie de raconter les choses. En fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop d'idées et pas assez de temps pour les concrétiser. Donc je suis toujours dans le livre ou le projet d'après. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça qui me guide et qui me fait plaisir, en fait, c'est de pouvoir avoir une idée, la concrétiser, l'écrire, le fait qu'elle soit publiée, puis de passer à la suivante. En fait, c'est ça. Ça paraît peut-être un peu vain parce que ça se finira jamais. Mais il y a la fois
vous me faites ce signe avec vos mains comme un moulinet ou un hamster dans sa cage qui tourne en rond.
Ça. C'est ça, sauf que je suis un hamster dans sa cage qui est dans une belle cage.
Ah ouais, qui est vaste la cage quand même, hein, qui est à la taille du monde.
Et qui tourne pas toujours de la même façon, qui roule des fois un peu en biais, donc c'est non. Non, je me verrais plus comme un hamster qui fait le tour du monde avec son baluchon sur l'épaule.
Et puis son petit carnet à la main. Merci beaucoup. Une dernière question, comment va Julia ?
Julia, elle va bien, mais elle est grande maintenant, elle a 13 ans. C'est une ado, hein. Enfin, on rentre dans l'adolescence. Et là, c'est peut-être un sujet pour
un autre sujet pour une autre bande du livre. Dessinée. Adolescence, quand on est porteur de la trisomie 21.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Fabien Toulmé. J'étais ravi de vous accueillir dans cette émission Visage. Et puis, je renvoie bien sûr à vos bandes dessinées. Il y en a pas mal. Elles sont éditées chez Delcourt. Vous allez chez votre bon libraire local et plongez-vous et choisissez parmi ces différentes bandes dessinées et notamment la dernière En Lutte que vous venez de publier. Merci Fabien.
Merci.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.